Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, mais...
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend, mais qu'on n'est pas là, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis, tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans ses conceptions.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus pas grand,
hein ? Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tombé en panne de poste. C'est du temps que je pas. Sans quoi, tu dis, jamais je tombé en panne.
Merde, on a
aujourd'hui, mercredi 17 février, c'est la Saint-Gérald Le Pen. Saint-Gérald Le Pen est le saint patron de Marine Darmanin. Et c'est en direct sur France Télévisions.
Islamisme radical, islamisme politique radical, islamisme tout court.
J'aurais pu le signer, non. Ce livre. Communautarisme, djihad, terrorisme.
Mosquée, école coranique, terrorisme. Radicalisé.
La taqiya, les frères musulmans, salafisme.
Le salafisme, les frères musulmans. Le salafisme,
oui,
les frères musulmans. Le salafisme, ou les frères musulmans. Les frères musulmans, le salafisme.
Islamiste.
Les musulmans. Terrorisme.
L'immigration. Je partage votre avis.
Vous êtes d'accord sur tout.
Écoutez,
on a le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose.
Saint-Gérald Le Pen est le fils d'un tenancier de bistrot et d'une femme de ménage, qualité qu'il se plaît à rappeler d'ailleurs régulièrement lorsque de mauvais esprits lui font le singulier reproche d'être un larbin des bourgeois. Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que la mère de Gégé faisait des ménages, oui, mais dans une grande demeure de Saint-Cloud, où, entre deux coups de plumeau sur l'argenterie néo-fasciste du maître des lieux, elle donnait le sein à la petite Marine Darmanin, qui n'est autre donc que la sœur de lait de Saint-Gérald Le Pen. Certains media people prétendent même qu'une liaison ancillaire aurait duré entre le maître de maison, un certain Jean-Marie, et la mère à Gégé. Et à voir les ressemblances frappantes entre le vieux tortionnaire de Félaga et le jeune violeur de Tourcoing, certains affirment que Saint-Gérald Le Pen serait le fils naturel de Jean-Marie Darmanin. Ceci expliquerait sans doute pourquoi, au lieu de reprendre le bistrot de son paternel, supposé légitime, fonction pour laquelle il avait toutes les qualités, étant donné sa propension quasi naturelle à tenir péremptoire des propos de comptoir, Saint-Gérald Le Pen se serait tourné, avec bien sûr l'appui financier de son père naturel cette fois, se serait tourné vers la politique, sachant que cette dernière reste toutefois le prolongement, là aussi quasiment naturel, du comptoir de bistrot. Et oui, ici, la maison veut conserver ses électeurs. Elle fait crédit à mort. Et c'est ainsi que, guidé par son mentor et sa sœur de lait, Saint-Gégé se dirigea vers Tourcoing, une ville ontologiquement maigrettiste, pour y faire son beurre et y être canonisé sous les ailes droites du facho local, un certain Christian Van Est, souvenez-vous. Christian Van Est, élu au Terminus, au Bailly, chez Mimi, au Français, au Café de la Poste, chez Juju et Jacqueline, et oui, et dans quelques autres circonscriptions bistrotières de la cité du Brouteux, de Chatte. Les valeurs chrétiennes menacées par les hordes islamistes, l'anticommunisme à la papa, la chasse au PD, tout cela forma le jeune Gégé et fit de lui un adulte. Mais justement, passé cette période d'initiation, il fallut trouver au jeune homme des espaces plus larges pour son ambition et des passerelles pour faire passer les idées de son géniteur naturel, souvenez-vous Jean-Marie, dans la grande famille de la droite. Il se fit alors littéralement sucer par le sarkozysme. Mais c'était consenti, hein ? Rien ne devait arrêter le Rastignac de la politicaillerie nationale de ce début de XXIe siècle dans sa vertigineuse ascension. Sarkozy grillé, Fillon fusillé en plein vol, Saint-Gérald Le Pen se tourna alors vers le maître du moment afin de porter dans la bourgeoisie et dans son centre même l'héritage de Saint-Cloud, du Bailly, de chez Mimi, du Café de la Poste et de Christian Van Est. Et comme la bourgeoisie s'est comptée, elle le plaça directement à l'intérieur du système, là où on a la main sur la police et sur les fiches des opposants. Ah ouais, mieux qu'au bistrot. Saint-Gérald Le Pen, avec sa sœur, Marine Darmanin, étant par la même classe dominante qualifiée d'office d'adversaires principaux du système, il fallait à Gégé donner des gages à sa clientèle. Et en vérité, il ne faut pas être complotiste pour deviner que Gégé fait de l'entrisme dans la Macronie. Mais c'est consenti, hein, au service du fascisme qui vient. La preuve que lui, il est vraiment du parti de la France, la voilà.
Pourquoi renvoyer la main tendue par le président de la République ?
Monsieur Macron, il dit des énormités, personne ne lui demande comment il finance tout ça.
Pourquoi renvoyer la main tendue par le président de la République ?
C'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays d'abord. Lui qui aime bien la banque, je pense que c'est une bulle spéculative. Et bien, dans quelques semaines, la bulle va exploser. Le pays ne peut pas souffrir 5 ans de socialisme supplémentaire, soit par monsieur Valls, par monsieur Montebourg, monsieur Hamon ou par monsieur Macron.
Pourquoi renvoyer la main tendue par le président de la République ?
Ce sera au second tour de l'élection présidentielle, l'inexpérimenté monsieur Macron et madame Le Pen. C'est à ça que l'on va aboutir.
Aujourd'hui, mercredi 17 février 2021, le soleil s'est levé, on l'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Il vient de se coucher, tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus et sur campuslille.com.
Hey yo, c'est les Roms, c'est les Roms, hein. C'est les Roms, les musulmans, les hommes, les plus sûrement déformés depuis le début sur le plan de cette com. Dans la vue, tu prends à chaque titre et chaque JT affligé par l'idée de stage, JT mal vu, tant il se fut sur le plan. C'est le type dans la merde, c'est le migrant qu'à peine à survivre dans la belle patrie des droits de l'homme. C'est le gitan que madmène, déjà le tyran qui assène les coups qui se prend avec ses avis qui t'assomment. C'est la somme, tous ces discours, ces représentations qui courent, les rues, ces rumeurs, ces bruits sourds, tous ces gentiments, tout qui se gourent. La somme des efforts qu'on fournit pour qu'ils soient construits pour clore. Lorsqu'ils promettent de chasser l'ennemi, les foules disent je suis pour. Sont les jeunes des cités, les dépités, les excités, les agités, précités. Pour qui exister, c'est résister. Ce que la nécessité conduit à la mendicité. Les
assister, tous se priver de droit de citer dans la cité. C'est l'ennemi intérieur, l'état d'exception. Droit pénal de l'ennemi et de celui qui fait sécession. Un état droit qui va de travers et multiplie les pressions. Et crée avant tout l'ennemi pour justifier la répression. La rage, l'ennemi intérieur, le noir, l'ennemi intérieur, l'islam, l'ennemi intérieur, l'ennemi intérieur. C'est l'ennemi intérieur qui permet de maintenir la structure de domination antérieure, celle que nous déprécions. C'est la figure qu'on bâtit, dont ils nous disent qu'on bâtit, qui ne suscite pas d'empathie et pour qui personne compatit. C'est la bête, au regard son tapis dans l'ombre aplati, prête à t'y sauter à la gorge ou bien à t'y prendre à partie. C'est le repoussoir que le pouvoir emploie pour nous émouvoir et nous voir soumis à ce foutoir pourri. C'est ce que le pouvoir nous dit pour nous empêcher de nous mouvoir, de voir que tout foire. Exception faite à lui, pas d'arabe noir. C'est ce que l'état ourdit et dont le bilan s'alourdit. Tous les bobards qu'on nous dit pour qu'on oublie que l'État nous pisse, c'est ce qu'a nourri le racisme d'État. Tandis qu'il nous bétaille, il nous anti l'État et étalons à toute sa fourbrie et la youpi. Y'a la presse, les couves du point ou de l'express. Comme l'État nous agresse, il crie que l'autre provoque notre détresse. Est-ce bien le migrant qui a un si grand pouvoir puissant sous l'insistance des uns, elle dirait tel le signe leur manigance. C'est l'ennemi intérieur, l'état d'exception. Droit pénal de l'ennemi et de celui qui fait sécession. Un État droit qui va de travers et multiplie les pressions. Et crée avant tout l'ennemi pour justifier la répression. La rage, l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, l'islam, l'ennemi intérieur, l'ennemi intérieur. C'est l'ennemi intérieur qui permet de maintenir la structure de domination antérieure, celle que nous déprécions.
L'ennemi intérieur est dans ta tête. Ton voisin est dangereux, il faut que tu l'acceptes. Ça pète en bas, à droite, à gauche et à l'étage. Prends garde à toi, sinon les barbares t'écrasent. Mais qui chassent les femmes des plages selon l'aspect de leur maillot de bain. Refoule des sorties scolaires à cause d'un voile anodin et d'un air hautain. Dicte aux femmes comment être libre. Est-ce les musulmans? Moi perso, j'en vois aucun. T'as l'air affolé, t'en réfères aux flics. Mais ce n'est pas les Roms qui volent des centaines de milliards au fisc. Travailleurs, t'as peur en ces temps de crise. Pourtant, ce n'est pas un migrant qu'a délocalisé ton entreprise. Vise les visages et borgne les attaques. Choc et les mains arrachées, ça c'est pas une pratique de black bloc. Alors l'ennemi intérieur n'est pas celui qu'on croit. Peut-être même que c'est la peur qui est en toi.
C'est l'ennemi intérieur, l'état d'exception. Droit pénal de l'ennemi et de celui qui fait sécession. Un état droit qui va de travers et multiplie les pressions. Et crée avant tout l'ennemi pour justifier la répression. La rage, l'ennemi intérieur, le noir, l'ennemi intérieur, l'islam, l'ennemi intérieur, l'ennemi intérieur. C'est l'ennemi intérieur qui permet de maintenir la structure de domination antérieure, celle que nous déprécions.
Alors, en cette période où il est question de séparatisme et où les musulmans sont montrés du doigt, nous pouvons nous étonner du fait que certains musulmans obtiennent toute l'attention du monde occidental et sont présentés comme des victimes de gens qui sont très méchants. C'est bien évidemment dans le cadre de la campagne continue contre la Chine que la question des Ouïghours est abordée dans nos médias mainstream. Et c'est pourquoi ce soir, nous qui sommes un média pas mainstream du tout, nous allons donner la parole à, vous allez entendre plus exactement, Maxime Vivas pour en finir avec les fake news sur cette question. Auparavant, une interview que nous avons réalisée à l'occasion de la création d'une association, les Fracassés, association des accidentés du travail de la société Confiserie du Nord à Tourcoing, ceux qui fabriquent les têtes brûlées, vous allez voir, c'est chaud. Et avant même d'entendre cette interview, la prise de parole d'un jeune militant CGT à l'occasion du rassemblement organisé par les grévistes de la société Nocibé, puisque vous savez que vous êtes au parfum, hein, vous savez donc que Nocibé fait partie de cette liste de restructuration du capital qui est en cours. C'est l'heure de le mettre.
Radio Campus Lille 106,6. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
Winchester, Auchan, Agfa, Tui, Nocibé, et j'en passe. Les patrons licencient à tour de bras. Et si les grands patrons liquident les entreprises et leurs salariés, c'est parce que le gouvernement y réunit les conditions nécessaires et favorables au démantèlement et à la liquidation de nos outils de travail. Autrement dit, le gouvernement est complice du capital financier qui redécoupe pour mieux se partager dans un petit entre-soi et à moindre coût le monde du travail. Et donc, en plus de nous faire croire que nous sommes des coûts et des charges, alors que c'est nous
qui produisons la richesse, parce que un patron, il a besoin de nous, mais nous, on n'a pas besoin de lui. Et donc, le gouvernement, il fait le choix pendant ce temps de fermer des services dans les hôpitaux, de fermer des lits, de réduire les effectifs, de réduire les budgets, plutôt que de tout augmenter, de sorte que il ne lutte pas de façon efficace contre la pandémie. Et c'est là où on voit que cette pandémie est un prétexte formidable pour les patrons, pour licencier à tour de bras. Et donc le coronavirus, c'est un virus de classe. Et c'est pas la CGT qui le dit. C'est ce gouvernement qui tient le même discours que des grands patrons milliardaires comme Warren Buffett. Warren Buffett, patron de Lubrizol, il disait « On est dans une guerre des classes ». Et c'est ma classe, la classe de la bourgeoisie qui est en train de la gagner. Et il n'y a pas si longtemps que ça, Macron il disait on est en guerre. Et donc on sait de quelle guerre il s'agit. C'est la guerre des classes, la lutte des classes. Et donc mes camarades, il faut être à la hauteur des attaques et des assauts de l'ennemi dans cette guerre. Exigeons le remboursement du CICE. De cette année, de l'année dernière et de toutes les précédentes années. Interdisons les licenciements. Nationalisons les secteurs clés de notre économie. Reprenons l'outil de production. Et être à la hauteur dans cette guerre, c'est se battre d'arrache-pied dans sa tôle, mais aussi à l'extérieur, sur le terrain idéologique, dans nos familles, auprès de nos amis, pour faire adhérer aux centrales syndicales, pour faire adhérer à la CGT, parce qu'il faut qu'on massifie nos rangs. Il faut être à la hauteur de cette guerre. Et il ne s'agit plus d'attendre que le patron il nous tende la main. C'est à nous de prendre la main maintenant. Et donc, tous ces rats terrés dans leur bureau, bien au chaud, un jour viendra où on ira les chercher. En attendant, travail, discipline, détermination, parce que le combat il continue. Ouais.
Pris dans les chaînes de cet esclavage mental, chaque jour me rattrape. La réalité, c'est pas facile. Il faut garder le moral à chaque minute, il faut se battre. En réalité, à la merci de leur injustice sociale, obligé de s'y faire. En réalité, mais c'est sans nous. Que va le nouvel ordre mondial? Nous, on est juste condamnés à la réalité. Ouais, c'est la merde. Et on galère comme des chiens. On se débrouille comme on peut pour gagner trois fois rien. On bosse à perte. On se crève pour faire le plein. On se casse le dos pour des euros. Putain, ça craint. On pèse que dalle sur la balance des vampires de la finance. Ils se nourrissent du sang de nos états d'urgence. Ils tirent sur leurs cigares comme ils tirent sur l'ambulance. Ils se goinfrent de nos vies en se frottant la panse. Pris dans les chaînes de cet esclavage mental, chaque jour me rattrape. La réalité, c'est pas facile. Il faut garder le moral à chaque minute, il faut se battre. En réalité, y'a la merci de leur injustice sociale, obligé de s'y faire. En réalité, mais c'est sans nous. Que va le nouvel ordre mondial? Nous, on est juste condamnés à la réalité. Ouais, c'est la crise. C'est pas la même pour tout le monde. Y'a ceux qui creusent leur tombe et ceux qui fabriquent les bombes. Ouais, c'est la mise. Et même si la colère gronde, si tu te poses des questions, n'attends pas qu'ils y répondent. Ils sont trop occupés à planifier leurs profits. Ils souhaitent bien de savoir que ta vie frôle la survie. Ils n'entendent pas tes cris lorsque tu les maudis. Ils sabrent le champagne en coupant la tête des petits prés dans les chaînes de cet esclave. Lavage mental, chaque jour me rattrape. La réalité, c'est pas facile. Il faut garder le moral à chaque minute, il faut se battre. En réalité, à la merci de leur injustice sociale, obligé de s'y faire. En réalité, mais c'est sans nous. Que va le nouvel ordre mondial? Nous, on est juste condamnés à la réalité. On est leur matière première du berceau au cimetière. Au rythme des tambours évoque la galère. C'est en leur nom qu'ils font toutes leurs affaires. Mais c'est en notre nom qu'ils s'en vont faire la guerre. Comme leurs canons se nourrissent restes de la chair. Ils les envoient manger là où l'homme coûte pas cher. Un jour tu es leur frère, un jour ils veulent ta terre. Les choses ne sont jamais ce dont elles ont l'air. Pris dans les chaînes de cet esclavage mental, chaque jour me rattrape. La réalité c'est pas facile, il faut garder le moral. À chaque minute il faut se battre. En réalité y'a la merci de leur injustice sociale, obligée de s'y faire. En réalité, mais c'est sans nous que va le nouvel ordre mondial. Nous on est juste condamnés à la réalité.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Radio Campus, c'est l'heure de le mettre. Nous avons été conviés, comme d'autres médias, qui étaient présents d'ailleurs, à une conférence de presse ici dans les locaux de l'Union Locale CGT de Tourcoing, pour parler de la naissance d'une association, l'association Les Fracassés, association d'aide et de soutien aux accidentés du travail de l'entreprise Verquin Confiserie du Nord. Verquin, c'est l'ancien nom, Confiserie du Nord, c'est le nouveau nom. Il semblerait qu'il y ait des accidents du travail assez sérieux qui se produisent régulièrement dans cette entreprise et qui fracassent donc les ouvriers. Avec nous, Aurélien. Aurélien, est-ce que vous pouvez vous présenter, votre âge, votre ancienneté dans l'entreprise, est-ce qui vous arrivez, dans quel état vous êtes?
Oui, bonjour, je m'appelle Aurélien Sauvage, j'ai 37 ans et je suis chez Verquin Confiserie du Nord maintenant depuis fin 2003, donc 18 ans cette année. Et je suis conducteur de ligne, mais je suis actuellement en arrêt accident de travail.
Est-ce que tu peux raconter ton dernier accident du travail? Parce que en plus, tu en as eu plusieurs, c'est ça?
J'en ai eu plusieurs sur le coup, dont le dernier, ils n'ont rien voulu savoir. Donc celui que j'ai eu, le principal, c'était au mois de mars, début mars. Déchirure musculaire multiple au niveau du côté gauche. Trois ou quatre côtes, je sais plus. Et en arrêt depuis. Et j'ai voulu reprendre au mois de juin de moi-même pour montrer que c'était indépendant de ma part. Et mon état s'est dégradé, c'est parti dans mon dos et je suis en arrêt depuis maintenant le mois de novembre.
Alors qu'est-ce qui a provoqué cet accident du travail concrètement? C'est des
un port de charge de plus de 20 kilos à la main.
Bon, il y a des gens qui nous écoutent, ils se disent peut-être 20 kilos pour un bonhomme comme toi, c'est transportable, mais
c'est
20 kilos à quelle fréquence?
J'étais en train de vider une cuve de... On met deux sacs de 25 kilos et 100 litres d'eau. Donc ça fait 150 kilos. 150 kilos, pardon, à vider à la main. Donc ça fait au moins une dizaine de sauts, quoi.
Ouais.
10-12 sauts.
Alors aujourd'hui, on se voit, c'est la radio, c'est pas la télé, mais t'as des bottes en caoutchouc, tu me diras, c'est la météo l'explique, et t'as la jambe allongée.
Ouais.
C'est pas un choix esthétique.
C'est pas un choix esthétique, c'est pour moi, en fait, pour me soulager un peu. Comme avec ces bottes en caoutchouc, oui, le temps n'est pas terrible, mais je mets surtout ces bottes-là parce qu'il n'y a pas de lacets, je ne peux pas me baisser pour faire mes lacets.
T'as quel âge?
J'ai 37 ans.
Ton accident du travail a été consolidé par la sécurité sociale, ça veut dire qu'ils considèrent que tu peux reprendre le travail?
Oui, mon état de santé a été consolidé au mois de décembre. Mon arrêt se finissait mi-janvier. C'est le médecin conseil qui a consolidé mon accident de travail, qui m'a fait reprendre au mois de janvier. Mais j'ai été voir la médecine du travail, j'ai dit que j'étais dans la capacité de reprendre, et la médecine du travail m'a dit de reprendre un arrêt maladie.
D'accord, donc là tu peux rester, si on les écoute, tu pourrais rester en arrêt maladie pendant...
Pendant quelques années.
Ouais, c'est pas une vie. Hein.
C'est pas une vie. Et physiquement, mentalement, on en prend un coup dans la tronche. En parlant poliment.
Ouais. Parce que t'es pas un cas isolé, je veux dire, t'as vu tes collègues.
Je suis pas un cas isolé. Là, actuellement, à la radio, on a un collègue d'Ali, pareil, en accident de travail. Une ancienne collègue, Catherine, qui était en accident de travail aussi. Et je ne suis pas le seul, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop dans cette entreprise.
On va très vite parler à Catherine, mais d'abord on a le délégué syndical, parce que si on est dans les locaux de la CGT, c'est parce que cette association a élu domicile ici et qu'elle est à l'initiative de la section syndicale CGT de cette entreprise, Confiserie du Nord. Quelle analyse vous faites, vous Michel, en tant que délégué CGT, de ces problèmes, de cette problématique de la sécurité des conditions de travail dans cette entreprise?
Ouais, beaucoup trop d'arrêts, beaucoup trop d'accidents de travail, je veux dire, c'est de plus en plus... Ils mettent aucun moyen pour les ports de charges lourdes. Tout se fait à la main, même tout ce qui était sécurité, beaucoup de carters qui sont en défaut, etc. Parce que aussi les accidents arrivent pour coupure, pour brûlure, pour doigts arrachés sur un pas arraché. Et aussi beaucoup d'accidents de travail qui ne veulent pas déclarer. Ça, il y en a énormément qui disent non, ça, c'est pas grave, tu peux revenir demain, t'inquiète, on te mettra quelqu'un pour t'aider. C'est toujours un truc classique. Et voilà.
Quand Aurélien parlait de port de charge, toi, tu as fait le calcul de ce que ça peut être sur une journée?
Oui. Par exemple, je prends un exemple, sa pâte à mâcher. On a 4 pains de graisse à mettre tous les 15-20 minutes. 2 sacs de gélatine, pareil. Le fondant, pareil. Donc, ça fait déjà presque 100 kilos. Tous les demi-heures, 100 kilos. Sur une journée, on est presque à une tonne. Une tonne par jour de port de charge et tout à la main, rien.
Alors, tu as été élu au CHSCT quand il y avait un CHSCT, ouais. À l'époque, hein, parce qu'il faut rappeler que la loi Macron a supprimé les CHSCT. Ouais. Ça suffisait pas finalement à la section syndicale pour qu'il y ait une association qui soit créée, ou c'est aussi peut-être pour récupérer les anciens, puisque beaucoup des gens qui ont vécu ces accidents du travail sont désormais sortis de l'entreprise.
Oui, beaucoup ils sont sortis, ils ont été licenciés pour inaptitude. Et c'est vrai que les licenciements pour inaptitude, ça se fait très rapidement. Je veux dire, c'est un CSE, ça dure 10 minutes, et voilà. Et même pour Dalil, ils ont fait leur CSE, et ils ont fait sans la CGT. Ils n'ont pas voulu, ils m'ont invité, mais ils l'ont fait. Quand je suis arrivé, j'ai rendu à midi et demi, je suis arrivé à midi et quart, on m'a dit c'est fini. Donc voilà, et là ils ont reprogrammé, mais le problème c'est que moi j'étais qu'à contact, j'ai dû me faire tester, je suis négatif, donc j'ai envoyé un mail pour lui dire bon, je peux pas venir, désolé. Et apparemment c'est lui, puis il va recevoir sa lettre, donc on n'a pas donné, j'ai pas pu donner mon dire oui ou non pour Dalil.
Ça aurait pas changé grand chose fondamentalement,
tout, mais voilà,
c'est pour, ouais, c'est à dire,
dire qu'il nous exclut aussi un peu de des réunions pour voilà.
Alors, Catherine, il paraît qu'on ne demande pas l'âge aux dames, mais je vais te le demander. Et puis, ton ancienneté dans la boîte, est-ce que tu as vécu, quoi?
Ben, moi, je vais avoir 54 ans. 24 ans dans la boutique. 4 ans d'intérim, 20 ans d'embauche. Et puis là, un an, ça fait un an que je suis licenciée. Pour inaptitude.
Et ça s'est passé comment? Comment en es-tu venue à être inapte?
C'est suite à un accident, une chute sur l'épaule, 3 interventions chirurgicales, et j'ai dû passer en consolidation. Mais
ça veut dire que...
Entre deux, il y a eu un deuxième accident de travail, parce qu'on m'a obligé à reprendre le travail en 2017, sous menace, carrément. La sécu m'a fait des menaces, du chantage. Et là, j'ai dû reprendre. Et encore à l'époque, Verquin ne voulait pas me reprendre parce qu'il connaissait ma pathologie. Et ils m'ont mis en congé payé le temps de se retourner. Et ensuite, quand j'ai repris, j'ai eu un accident de travail en janvier 2018. Sur un poste qui n'était pas aménagé.
En quoi il a consisté cet accident? Concrètement, c'était quoi?
Déjà, je ne peux plus rien porter. Parce que je suis handicapée d'un bras, d'une épaule. Et là, il fallait soulever des bacs. Donc, je vais toujours appeler un gars à l'enveloppage pour mettre les bacs sur la table, pouvoir les trier. Et puis, quand j'ai fait coulisser les bacs sur la table, le plateau, il n'était pas fixé à l'ossature. Donc, tout est tombé. Et si c'était 3 jours avant, j'avais tout dans les jambes. Donc, là, par contre, ça aurait été très grave.
Les séquelles?
Ah oui. Là, je suis en rechute. Donc, ça se poursuit avec un avocat.
Au niveau du travail, de l'emploi?
Rien pour le moment, parce que il y a un an et demi, quand on m'a mis en consolidation, la Sécu m'a refusé mon PSOP pour pouvoir faire un bilan de compétences. Ça a été refusé. Et là, je le commence seulement maintenant.
Quelle image ça donne de l'entreprise, de celle-là en particulier, et même de la société dans laquelle on vit? Parce que moi, j'ai l'impression, à vous entendre, que... vous ressemblez plus à des Kleenex qu'à des êtres humains, quoi. On s'en sert, on les jette.
Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est l'ouvrier qui trinque, hein, derrière. On a des problèmes avec la sécu, on a des problèmes avec l'un, avec l'autre, et puis en attendant, on passe des mois et des mois sans salaire. Voilà. Donc, si c'est pour tout le monde pareil, c'est compliqué. C'est très difficile à vivre.
Alors il reste Dalil qui ne tient pas en place, parce que on a dû faire cette interview. Ça aurait été plus pratique de la faire debout, mais Dalil, Il tient pas longtemps debout et quand il est assis, il doit se relever de temps à autre. C'est ce que tu viens de faire là, oui, actuellement. Tu souffres là ?
Oui, bien sûr, je souffre. Parce que je peux pas rester longtemps assis, je peux pas rester longtemps debout. Il faut que chaque fois je change la position.
T'as quel âge ?
J'ai 50 ans.
Qu'est-ce que tu fais de tes journées en ce moment ? Puisque t'es en arrêt, on va y venir. Hein, mais...
En fait, pratiquement toujours à la maison. Et la plupart du temps allongé.
Alors, toi, t'as 50 ans et tu bosses dans cette boîte depuis combien de temps ? Et raconte-nous.
J'étais depuis 2010. Mm-hmm. Ça fait presque 10 ans, maintenant 11 ans. J'étais conducteur de machine. En fait, j'avais le premier accident en 2017, c'est le dos. Mm-hmm. Le deuxième accident, c'était... Pourtant, je souffre, mais j'ai continué à travailler depuis 2017 jusqu'à 2019. Et la deuxième accident de travail, en 2019 août, elle a déclenché le problème du dos. En fait, on a des machines. Chaque fois, on veut qu'il répare la machine, il y a beaucoup de déchets. Il y a des bacs lourds, jusqu'à 40 kilos. Mmh. J'ai pris le bac, hop, elle a déclenché le dos. Depuis cela, je suis en arrêt, ça fait un an et demi. Mmh. Et j'attends ma lettre de démission. De licenciement.
Ouais, pour une aptitude.
Pour une aptitude, oui.
Et comment t'envisages l'avenir, là, parce que...
Ben, en fait, l'avenir, je sais pas, c'est tout est noir. En fait, le médecin de travail m'a dit, je peux pas travailler assis, je peux pas travailler debout, je peux pas faire de rotation avec le dos, je peux pas prendre... plus de 10 kilos. Je ne sais pas quelle entreprise, elle embauche une personne avec tous ses problèmes, plus l'âge, 50 ans.
Mmh. Ou alors, il faut être patron. Patron, ce serait possible.
Oui, ce sera possible.
Les gens qui nous écoutent vont peut-être se dire, mais attends, porter 20 kilos, ça m'arrive, porter 40 kilos, ça m'arrive. Mais là, pour qu'il y ait autant d'accidentés du travail, parce que là, vous êtes que quelques-uns, mais...
En fait, c'est tous les jours. Il y a des moments où on répète tous les jours les mêmes gestes. Mm-hmm. Ça use le corps, tout le corps. Mm-hmm. C'est pas une fois, c'est un peu. Une fois, mais tous les jours, toute l'année, toutes les années, toutes ces années. Mm-hmm. Plus s'il y a toujours le lourd, et le patron, il s'en fout des ouvriers. Mmh. Pourtant, on souffre. Comme maintenant aussi, on fait plusieurs postes, il n'y a pas qu'un seul poste, et toujours les machines en arrêt, ça veut dire toujours on porte. Mmh. Pour ramasser les bonbons qui arrivent, toujours il y a des bacs, on ramasse avec des bacs. Et toujours il y a des gestes répétitifs. Ça use tout le corps, c'est pas que le dos. Mmh.
Qu'est-ce qu'il dit le médecin sur ton état de santé ?
Le médecin. Le dos est foutu, il n'y a pas de médicaments, il y a des médicaments pour soulager, mais pour guérir, rien.
Mm-hmm. C'est pour ça. On ne guérira pas, on souffrira toute notre vie maintenant.
Voilà, oui, c'est mm-hmm. ça.
Je pense qu'on est à un stade où on ne peut plus réparer. Il mm-hmm. n'y a que les cachets qui peuvent nous soulager, mais à force, on va devenir dépendant et à la longue, on ne sentira plus l'effet du médicament.
Alors c'est une boîte où il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup d'absentéisme, hein, ça a été dit hors antenne tout à l'heure, mais il y a quasiment 50% d'absentéisme. Ouais. On fait appel aux intérimaires.
Entre les accidents, les arrêts maladie, les burn-out, les dépressions,
mm-hmm.
Les licenciements, les démissions.
Mm-hmm. Et j'imagine des fois vous voyez arriver des jeunes qui se doutent pas de ce qui va leur arriver finalement, parce que j'imagine quand vous êtes arrivé aussi vous-même...
Tout à fait.
Mais la plupart, ils ne restent pas, les intérimaires.
Mm-hmm.
Chaque fois, ça change.
Mm-hmm.
Ils voient les conditions de travail, ils voient le salaire aussi, ce n'est pas intéressant. Tous, et la plupart des intérimaires, ils ne peuvent pas. Chaque fois, il y a de nouveaux intérimaires.
Mm-hmm.
Ils ne restent pas dans cette boîte.
J'ai eu un petit jeune d'une vingtaine d'années avec moi à former sur la ligne pressée, où c'est des gestes, des postures à répétition, des ports de charge et... des bacs à vider, du nettoyage et tout à faire. Je lui ai expliqué ce que j'avais, mes problèmes de santé, mon dos, tout ça. Il dit, je m'en fous, moi je suis jeune.
Mm-hmm.
J'ai dit, non, faut pas dire ça. J'ai dit, à mon âge, tu seras comme moi.
Mm-hmm.
Même avant, vu que maintenant c'est double, voire triple poste qu'on fait.
Mm-hmm.
Mais les jeunes, il y en a qui voient ce qui se passe, ils s'en vont tout de suite.
Et c'est le problème, je parle de mon collègue, parle de ce poste. Normalement, il y a deux personnes. Eux, ils ont tiré une personne, ils ont laissé une personne seule.
Mmh.
Ça fait 30 ans qu'on travaille avec deux personnes dans ce poste. Et maintenant, il n'y a qu'une seule poste. Et puis, il arrive de nouveau...
Une seule personne.
Ah, un seul poste.
Mmh. On est une seule personne au lieu de deux.
sur son poste. Ouais.
Bon, tout ça, c'est pour que l'entreprise Confiserie du Nord, qui appartient au groupe Sucre Alliance, fasse des profits généreux, qui puissent permettre à leurs actionnaires de vivre tranquillement, allongés, debout, assis, c'est pas un problème pour eux. Michel, pour conclure, en tant que délégué, tu te retrouves régulièrement face à la direction. Qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Qu'ils sont interpellés par ça?
Non, ils s'en foutent. Franchement, regarde par exemple Dali, là, il est resté quand même un an et demi chez lui. Ils ne l'ont pas appelé une fois pour demander minimum comment tu vas, voilà. Qu'à l'époque de Verquin, anciennement, je suis sûr qu'il aurait été appelé. Ça arrivait souvent qu'il appelait pour savoir prendre des nouvelles de l'ouvrier. Là, on est devenu des machines, voilà, des numéros, des machines. Et il faut travailler, point, ça s'arrête là. Il n'y a plus l'aspect humain, c'est fini.
Ne vous souciez jamais de ce qui vous gâche la vie, non. Amusez-vous et ouvrez-vous les uns aux autres. Si la France était leur pays, maintenant c'est le vôtre. Regarde l'avenir comme le bout en entre les mains. C'est aujourd'hui qu'elles vont faire les choses et pas le maintenant. Associez-vous, faites des groupes de musique. Reconstruisez ensemble, vous verrez, c'est magnifique. Des fêtes dans la logique et soyez méthodiques. En détruisant les murs qui nous embrouillent à la brique fabrique. Ne vous laissez plus traiter de citoyens de seconde zone. Débarrassez-vous de ces chaînes qui vous emprisonnent. Les choses évoluent, même dans la rue. Reprenez confiance en vous, ne vous avouez jamais vaincu. Les choses évoluent, surtout dans la rue. Reprenez confiance en vous, ne vous avouez jamais vaincu. C'est la monnaie qui t'attire. Tout le monde veut sa place devant la corne d'abondance. Mais on ne peut pas tous avoir de la chance. Beaucoup s'énervent, abusent de richesse. Pendant que d'autres subissent de fortes périodes de sécheresse. On pourrait tous tout équilibrer. Mais les gens veulent plus qu'ils n'ont pas de manche. C'est pourquoi, au lieu de ça, beaucoup gagnent en usant ce que d'autres gagnent en le mois. Quand c'est la logique du système, on me répond déjà. Oui, mais moi ça ne me convient. On ne peut pas tous être juge ou avocat, mais on voudrait tous décider des lois. Ah non, les choses n'avanceront pas tant que tout le monde se dira.
On ne peut pas tous être président hexagonal. On ne peut pas tous sonner les matines à Matignon. On ne peut pas tous porter un gilet pare-balles et une cravate pour faire sa campagne électorale. On ne peut pas tous chatter à l'Assemblée nationale. Y'a pas de micro ouvert pour les sœurs.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Maxime Vivas est journaliste, mais pas que. Il est également animateur radio, ce qui nous fait un point commun. Administrateur du site d'information Le Grand Soir, ancien référent littéraire d'Attaque. Donc Maxime Vivas est l'auteur d'un grand nombre de livres, dont plusieurs ont été primés et sont traduits dans de nombreuses langues. Maxime Vivas a été amené à s'interroger, un peu contre son gré, parce qu'il aurait préféré avoir à couvrir d'autres sujets, mais il a été amené à couvrir ce cas des Ouïghours pour se rendre compte que c'était essentiellement à des fake news, à des fausses nouvelles que nous avions à faire sur le sujet. Voilà. Alors d'abord, Maxime Vivas, merci d'être venu. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les Ouïghours?
Alors, premièrement, je réponds à votre question première. Qu'est-ce qui m'a décidé d'écrire ce livre? À vrai dire, ce livre, ça fait 4 ans que je ne me décidais pas à l'écrire. Parce que je voyais un petit peu l'ampleur du problème, ce qui est les conséquences que ça allait avoir pour moi. Et je savais que j'allais être complètement isolé, seul, puisque je vis en Occident, je vis en Europe. C'est peut-être pas pareil dans le reste du monde. Vous savez que quand l'Allemagne, en octobre 2020, a voulu faire voter une motion de condamnation de la Chine à l'ONU, 34 pays seulement l'ont voté. Ce qui veut dire que l'écrasante majorité des pays du monde ne tiennent pas les discours que l'on tient en France, que nos politiques tiennent et que nos médias tiennent. Donc voilà en fait ce qui au départ m'a dissuadé d'écrire le livre. Et puis à la fin, j'ai craqué, je me suis dit quand même, on ne peut pas laisser ces choses-là dire. Et donc j'ai pris le risque de l'écrire. Alors ensuite, vous me demandez quels sont les problèmes qui se posent aux Xinjiang. Alors ce ne sont pas les problèmes que nos médias racontent. Et dans mon livre, je le dis, j'en fais la démonstration. Mais il n'en reste pas moins que le Xinjiang est un problème pour la Chine. D'abord parce que c'est une république, une région qui a 8 frontières, et donc une avec le Pakistan et une avec l'Afghanistan, par laquelle des islamistes radicaux passent en Turquie puis en Syrie pour faire la guerre avec Daesh et Al-Qaïda. Donc c'est un vrai problème pour eux. Ensuite, cette région est une région immense, c'est un sixième de la Chine, en superficie, c'est 3 fois la France. Donc et ensuite, c'est une région qui est riche en minerais de toutes sortes, et puis c'est aussi, je crois qu'on en reparlera, le point de départ de la fameuse route de la soie. Alors, il y a donc des vrais problèmes qui se posent en Chine, dans cette région, et le gouvernement chinois lutte contre ce qu'il appelle les trois fléaux, le terrorisme, le séparatisme et l'islamisme radical. Et il le fait avec une grande rigueur, c'est pas la peine de le cacher, il y a une grande rigueur, il mène une lutte acharnée contre ça. Pour vous prendre un exemple, dans un livre blanc édité par le gouvernement chinois en 2019, en mars 2019, ils disent que depuis 2014, ils ont arrêté 12 951 terroristes, si vous voyez, c'est précis. Ils ont saisi 2052 explosifs. 30 645 personnes ont été sanctionnées pour des activités religieuses illégales, etc. Vous voyez donc qu'il y a effectivement une lutte du gouvernement chinois. Et moi, ce que j'ai pu voir, puisque je suis allé au Xinjiang en 2016 et en 2018, ce que j'ai pu voir, c'est que sur la route, il y a des checkpoints, il y a des nombreuses caméras dans les rues, qu'il y a même des codes QR collés sur certaines maisons dans des villages, que pour avoir une carte SIM, eh bien, il faut montrer son passeport et se faire enregistrer. Donc il y a tout ça qui est mis en place dans l'objectif, non pas de persécuter le peuple ouïghour, mais de prévenir des possibles attentats, puisqu'en fait, des attentats, ils en ont eu des attentats qui étaient sanglants, non seulement au Xinjiang, mais dans d'autres pays, dans d'autres régions, comme d'ailleurs Pékin. Voilà, donc tout ça existe. Cette traque aux terroristes existe, on ne peut pas la nier. Et évidemment, elle a des effets collatéraux sur l'ensemble de la population du Xinjiang, qui n'est pas peuplée uniquement de Ouïghours. Les Ouïghours, c'est 50% de la population. Mmh. Ensuite, il y a d'autres ethnies. Le Xinjiang n'est pas aussi composé de gens qui sont tous musulmans. Il y a plusieurs religions. Mais enfin, tous, par des dommages collatéraux, si on veut, subissent cette politique de prévention des attentats qui pourrait cesser sans doute le jour où, en fait, le gouvernement chinois aura vaincu cette terrible menace qui pèse sur lui.
Alors, est-ce que c'est une invention de l'État chinois, ces terroristes ouïghours, ou est-ce qu'ils existent vraiment ?
Alors, non seulement il y en a au Xinjiang, mais il y en a aussi en Syrie. En Syrie, alors c'est difficile de donner un chiffre, mais en fait, on peut dire aux alentours de 5000 quand même, 5000 Ouïghours qui font la guerre en Syrie avec Al-Qaïda. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont installés là-bas avec leur famille. On voit même, il y a des photos qu'on voit avec des enfants Ouïghours qui sont habillés en militaire, qui brandissent des armes. Ils sont en train de former la deuxième génération. Oui, il y a ça. Et puis, sur le territoire même de la Chine, il y a eu de nombreux attentats quand même qui ont été des attentats meurtriers. Nous, on a beaucoup parlé chez nous du Bataclan, par exemple. Mais ils ont vécu des choses aussi comme ça, où on a tué des centaines de personnes. Et uniquement par idéologie, un peu religieuse, en fait. Là, ce sont les fous d'Allah. Voilà, donc, ça existe vraiment, c'est pas la peine de le nier, parce que c'est une réalité. Et cet islamisme radical, c'est un peu le prétexte pour essayer de voir si on ne pourrait pas séparer une partie de la Chine, en fait. Voilà. Et donc, si on amputait la Chine d'un sixième de son territoire, évidemment, ça ferait du bien à certains pays qui sont concurrents. Mais disons, c'est une question cruciale pour la Chine. Quel que soit ce que pense le Parti communiste chinois, et quelle que soit la sympathie ou l'antipathie qu'on peut avoir pour Xi Jinping, pour eux, c'est une question vitale sur laquelle ils ne céderont pas. Le mieux, c'est effectivement de voir comment on pourrait peser le climat, qui, en fait, il ne faut pas exagérer, c'est relativement paisible, parce que le but, c'est quand même de sortir ce pays de la pauvreté. Cette région est une région pauvre, pour plusieurs raisons, D'abord parce que c'est une région qui est proche de déserts, des déserts qui gagnent un petit peu sur les terres, parce qu'il y a des grandes montagnes qui la coupent en deux, et donc c'est une région en partie désertique, aussi très très montagneuse. Et donc il y a beaucoup de retard par rapport à des régions qui sont plus favorisées sur les territoires chinois. Et puis il y a donc développement à tout point de vue, à point de vue à la fois industriel, agricole, et puis aussi culturel. Par exemple, j'ai pu le constater, une partie des Ouïghours ne parle que la langue Ouïghour. Ils connaissent même pas le mandarin, qui est la langue de leur pays. Imaginez qu'en France, vous ayez une région dans laquelle on ne parle pas français, encore aujourd'hui. Ça existait à une époque, mais ça, en fait, on a harmonisé le pays, on a harmonisé la langue du pays chez nous en imposant le français, quelquefois d'ailleurs avec des méthodes coercitives et brutales. Eh bien, mais aujourd'hui, tout le monde parle une langue chez nous, qui est le français. Et bien là-bas, c'est pas le cas chez eux. Et moi, il m'est arrivé de poser une question à un ouvrier ouïghour sur son poste de travail, et mon interprète a posé la question en mandarin, il n'a pas compris. Il a fallu qu'une journaliste kazakh qui était là, qui parlait le ouïghour, lui pose la question et traduise la question à mon interprète qui m'a traduit en français. En fait, c'était en frôlé un petit peu le cadavre exquis. Et j'ai un ami journaliste chinois qui me dit que quand l'assemblée des élus du Xinjiang se réunit, c'est une région autonome. Oui. Donc en fait, donc, ils ont un gouvernement autonome. Et quand ils se réunissent, il faut 5 interprètes pour qu'ils se comprennent. Alors donc, il y a cette volonté du gouvernement de Pékin d'harmoniser ça aussi, de développer la langue du pays, le mandarin. Et pour ça, donc, il y a des centres de formation qu'on appelle chez nous des centres de concentration. Alors, à ma connaissance, il y a 200 langues qui sont parlées en Chine. C'est beaucoup, c'est un grand pays. Donc, 200 langues, mais effectivement, il y a une langue officielle, c'est le mandarin, comme chez nous, c'est le français. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de région où on ne parle pas le mandarin. Voilà, je pense que le Xinjiang était effectivement une région, de ce point de vue, où il y avait beaucoup de retard. Moi, je suis allé au Tibet. Alors, on nous disait la même chose, peut-être qu'on y reviendra, mais enfin, sur le Tibet et sur le Xinjiang, les éléments de propagande que j'avais reçus à l'époque, en 2011, et qu'on entend maintenant sur le Xinjiang, sont les mêmes. En fait, la langue est interdite, la religion est interdite, la culture est interdite, il y a un génocide, notamment par stérilisation. Et ce sont les quatre points que j'avais entendu au Tibet, qui étaient faux, et que j'entends aujourd'hui sur le Xinjiang, et qui sont également faux. Ce que je sais, mais que j'ai vu, parce que ceux qui parlent du Xinjiang, en France, ils vous feront remarquer qu'ils n'ont rien vu, ils ne sont pas allés. Ils n'y sont pas allés, moi ils sont allés. Voilà. Donc, ce que j'ai vu dans le cas d'ailleurs au Tibet et au Xinjiang, c'est que les inscriptions sur les enseignes des magasins, par exemple, sont dans les deux langues. Voilà, j'ai vu une école primaire au Xinjiang où il y avait des maîtresses qui enseignaient le Ouïghour et le mandarin aux élèves. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas une volonté d'éradiquer la langue. Il y a une volonté que cette langue-là ne soit pas l'unique langue de la région et que ce ne soit pas la langue première. C'est la moindre des choses. On l'admet très bien chez nous. Alors, pourquoi ne pas l'admettre là-bas? Il faut vraiment que dans un pays comme la Chine, les gens arrivent à se comprendre. Et c'est l'intérêt aussi des habitants du Xinjiang, parce que s'ils veulent développer leur commerce avec leur pays et avec l'étranger, voilà. Donc moi j'ai pas vu cette volonté d'éradiquer les langues, c'est faux en fait, voilà, c'est faux. Moi j'ai vu 10 fois des choses que j'entends ici et qui sont fausses. J'ai regardé récemment une vidéo de Raphaël Glucksmann, là, qui est vraiment le fer de lance de la campagne anti-chinoise là, au Parlement européen. Il dit vous portez la barbe, vous êtes en camp. Et moi je suis au Xinjiang, mais j'ai vu des barbes. J'ai des photos de leur vie, je peux le montrer. Donc il ment. Il dit vous lisez le Coran en camp. Et moi j'ai vu une école coranique, quoi, une école dans laquelle les enfants apprennent le Coran. C'est pas ce qui m'a plu le plus d'ailleurs. J'ai vu un gars prier en public dans le trou de Kashgar. Le mec, d'un seul coup, nous tourne le dos et se met à prier. Voilà. Donc tout ça est faux. En fait, il y a des consignes. Mais il y a un mode opératoire. Il y a un mode opératoire pour repérer les individus qui se radicalisent. Et ce mode opératoire, il y a 75 points, il est traduit et systématiquement tronqué par ceux qui mènent des campagnes contre la Chine. Malheureusement, on fait ça en France après un crime, après un attentat. Pensez à ce qui s'est passé avec Samy Paty à Compiègne-Sainte-Honorine, ce professeur qui a été décapité. On se rend compte après, en menant l'enquête, que le gars qui l'a tué, qui l'a décapité, s'était radicalisé. Mais les Chinois font pas ça. Ils le voient avant et ça fait partie des consignes qu'ils donnent aux autorités locales. Par exemple, je vais vous donner un exemple de ce qu'ils préconisent et comment c'est déformé chez nous. Dans les consignes qui sont données par le gouvernement chinois pour repérer les individus qui se radicalisent, ils disent un Ouïghour pratique le ramadan et essaie d'obliger autour de lui les gens à le pratiquer aussi. Alors, chez nous, la traduction c'est un individu qui pratique le ramadan va en camp. Mais ce n'est pas vrai. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, parmi les consignes, un Ouïghour se met à fréquenter plus qu'auparavant la mosquée et essaie d'obliger son entourage à venir à la mosquée et ne parle plus aux gens qui n'y vont pas. Ça, c'est un signe de radicalisation. Et alors, évidemment, dans les traductions françaises, les troncatures, c'est un individu qui va à la mosquée et suspect. Voilà. Donc, c'est tout à ce niveau-là. Un individu arrête de boire de l'alcool et essaie de convaincre son entourage de ne plus boire d'alcool. Dans la traduction française, c'est un individu arrête de l'alcool, hop, il va en camp de concentration. C'est tout comme ça, c'est extraordinaire le niveau de mensonge. Voilà, il n'y a même pas beaucoup à discuter sur l'idéologie. On a en fait des gens qui disent la vérité et des gens qui disent le mensonge. Par exemple, je vais terminer là-dessus, Raphaël Glucksmann, dans la vidéo dont je vous parlais, à plusieurs reprises, dit qu'on a mis un peuple tout entier, une population tout entière en camp de concentration. C'est comme ça qu'il parle. Oui. C'est de la folie, en fait. En même temps, il se contredit parce qu'il dit qu'ils sont 3 millions en camp. En fait, s'ils sont 3 millions en camp, c'est pas toute une région, parce qu'il y a 25 millions d'habitants au Xinjiang. Et si vous voulez dire que c'était toute la population ouïghour, ils sont 12,7 millions d'habitants au Xinjiang, donc c'est pas toute une population. Mais enfin, il peut dire ça dans une interview, et personne va ne le contredire. Il n'y a pas en face de lui un journaliste ou une journaliste qui va dire « Attendez, ça ne va pas, vous contredisez là. Si c'est tout le monde, c'est pas 3 millions, c'est 12 millions. Voilà. » Et donc, c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que dans les médias français, on peut dire n'importe quoi sur la Chine, contre la Chine, sans être jamais contredit.
Alors, on reviendra sur ces chiffrages de 1 à 3 millions qui sont en fait fallacieux. Mais on a parlé aussi de destruction de mosquées. Qu'est-ce qu'il en est ?
Oui, moi je pense que c'est pas très difficile de prendre une vidéo avec un tractopelle qui détruit une mosquée. Il y a des mosquées qui ont, je sais pas combien de siècles, et donc qui sont en terre, voilà. Et donc qui, à un moment donné, sont vétustes, sont dangereuses, sont détruites. Mais ce qu'il faut quand même regarder un petit peu, il faut être dialectique. Il faut voir le problème dans son mouvement. Il y a actuellement 24 000 mosquées au Xinjiang, c'est-à-dire plus que sur l'ensemble du territoire des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc je veux bien qu'on en ait détruit 2 ou 3, mais enfin, en fait, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a une mosquée pour 500 habitants. Et il y en a beaucoup plus que l'église catholique en France. Voilà, donc, et puis moi aussi, j'ai vu la mosquée de Kashgar. C'est la plus grande mosquée de Chine, d'ailleurs. Elle peut accueillir 10 000 fidèles, c'est-à-dire plus que Notre-Dame de Paris. Voilà. Et donc, je l'ai vu, cette mosquée, elle est pleine, on va dire quelquefois, des Ouïghours qui prient devant la mosquée. Voilà. Donc, comme ils ne pas nous dire que c'est interdit, j'ai discuté avec un Ouïghour, qui, devant un officiel d'ailleurs, devant un officiel des Chinois, je lui ai demandé, vous êtes musulman? Il me dit oui, j'ai dit, vous êtes à la mosquée? Il me dit, tous les vendredis. Je lui ai dit, vous êtes pas membre du Parti communiste? Alors, il a rigolé, comme si c'était un truc tout à fait incongru. Donc voilà, on peut aller à la mosquée et puis pratiquer sa foi. Le problème, c'est qu'en fait, la question, c'est la question que nous avons résolue chez nous, c'est de garder la religion chez elle, et puis c'est pas la loi de la religion, c'est la loi de la République. Le problème, il est là.
Alors en effet, d'un point de vue général, la culture de la Chine est clairement grandement méconnue en Occident. Voilà, les musulmans, donc il y en a en Chine, pas que au Xinjiang, il y en a dans plusieurs autres endroits. Ils sont pas forcément mal vus, au contraire, ça peut être par exemple sur les aspects culinaires, sont extrêmement mis en avant, les aspects architecturaux, etc. Il y a un tourisme qui est développé spécifiquement pour ça. Il y a des dizaines de millions de personnes d'ailleurs qui vont au Xinjiang chaque année, c'est une grosse destination touristique. Et voilà, et par exemple, dans les perceptions des Chinois, ce qui ressort fréquemment sur les Ouïghours, c'est côté par exemple, c'est une population qui est perçue comme étant belle parce qu'elle n'a pas les mêmes caractéristiques que les Han. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
C'est vrai que tu l'évoquais un petit peu, les Ouïghours en fait n'ont pas les caractéristiques physiques des Han, par exemple. Quand on voit un Ouïghour, ça ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui habite Pékin. Hein. Ils ont effectivement un type plus occidental. Voilà. Moi, j'ai un fils qui a vécu un an et demi en Chine, et donc on le prenait pour un Ouïghour. Voilà. Donc, ils ont effectivement des caractéristiques physiques tout à fait différentes. Et oui, ça, c'est vrai. Alors après, est-ce qu'ils sont bien vus? Oui, pour ça, peut-être, pour ceux qui s'attachent à la beauté. Mais en même temps, moi, on m'a dit que quelquefois, en Chine, quand un mauvais coup se faisait un vol, quelquefois, on disait spontanément, c'est un Ouïghour, comme chez nous, certains disent c'est un Rome, tu vois. On a monté liste aussi, parce que, et c'est lié certainement au niveau de pauvreté de ce pays-là. Hein. Et puis, la pauvreté appelle manque d'argent, mais aussi, souvent, le manque de formation professionnelle. Et ça aussi, actuellement, il y a des immenses camps de formation professionnelle qu'évidemment, on appelle chez nous des camps de concentration. Et peu importe, la Chine est un pays immense, les gens sont nombreux, et donc ils font pas ce que nous, ce qu'on a fait en 1880, quand on a voulu arracher l'enseignement à l'église, et quand on a voulu que tous les Français parlent le français, on a construit dans chaque village une école. Et on a envoyé des instituteurs qu'on appelait à l'époque les hussards de la République, qui avaient pour mission non seulement d'apprendre le français, non seulement d'apprendre à lire, à écrire, mais aussi d'apprendre ce qu'est la République. C'est exactement ce que font les Chinois dans les centres de formation qu'on appelle chez nous les centres des camps de concentration ou les camps d'extermination. Enfin, on a tout entendu là-dessus, hein, tout existe. Et donc c'est ce qu'ils font à la manière chinoise. Et puis ce que disent les officiels chinois, c'est que le jour où en fait le Xinjiang se sera développé, il y aura une plus grande communauté sur ce que leur pays avec le reste du pays, eh bien les problèmes vont se résoudre et les extrémistes religieux vont perdre du terrain. Donc en fait, ils misent là-dessus, vous savez, c'est ce que disait Victor Hugo, ouvrez une école, vous fermerez une prison. Donc ils en sont là.
Alors cela dit, on a évoqué tout à l'heure le chiffre des 1 à 3 millions de personnes enfermées dans des camps. D'où vient ce chiffre?
Non, on a rien de sérieux, sauf peut-être la fameuse technique qui avait été enseignée par Goebbels, cet officier hitlérien, qui disait qu'en fait il faut répéter plus ou plus un mensonge répété, plus il devient une vérité. Et donc le chiffre des internés ouïghours, ou alors la persécution des ouïghours, ou des génocides ouïghours, c'est faux à 100%, mais c'est répété, jusqu'au moment où ça devient une vérité. Alors donc sur le combien de ouïghours qui sont internés dans des camps de concentration, on n'a rien. Il y a simplement un anthropologue d'origine allemande qui maintenant vit aux États-Unis, qui s'appelle Adrian Zenz. C'est la source. C'est vraiment lui qui va alimenter tous nos hommes politiques, tous nos médias. Moi, j'ai rarement vu un article contre la Chine sur les Ouïghours sans que son nom n'apparaisse. Et Adrian Zenz, c'est un anthropologue, en fait, c'est un évangéliste complètement illuminé qui prétend que Dieu lui a ordonné de mener une campagne contre la Chine. Il fait partie d'une organisation anticommuniste extrême droite américaine et il est allé en Chine en 2007 en tant que touriste. Ça fait 4 ans qu'il n'est pas allé. Et là, il travaille comme ça, en fait, au doigt mouillé, et il avance des chiffres, n'importe lesquels, il dit lui-même, que petit son approximatif, hein, voilà, qu'on peut discuter, un jour il dit 1 million, un jour il dit 1,8 million, en suivant, comme ça, ça peut évoluer très vite dans son esprit, parce qu'il sait que ces chiffres-là vont être repris par l'ensemble des médias du camp occidental, sans jamais être contestés, et sans que jamais quelqu'un lui demande comment il a trouvé ces chiffres-là. Alors c'est un menteur, moi je vous le dis, c'est pas quelqu'un avec qui je suis en désaccord, c'est un menteur. Enfin, c'est pas, voilà. Entre lui et moi, il n'y a pas des divergences idéologiques. Il y a la divergence qui entre la vérité et le mensonge. Je vais vous donner un exemple que j'ai mis dans mon livre, là, il y a quelques semaines, à peine. Il a publié sur son compte Twitter une information capitale où on voyait une chaussure dans laquelle il y avait un petit carton, dans lequel était écrit dans un anglais parfait d'ailleurs, au secours, je suis un Ouïghour en travaux forcés, sauver les Ouïghours. Alors, d'abord, j'ai appris comme ça que les ouvriers Ouïghours qui étaient en travaux forcés parlaient parfaitement l'anglais. Moi, il me semblait qu'il parlait que le Ouïghour. Et donc, il publie ce truc-là. Et puis, le lendemain, ou sur le lendemain, sur son compte Twitter encore, il met un gros plan de la chaussure. Il dit, voici la chaussure du Ouïghour, etc. Malheureusement, en la mettant en gros plan, il n'a pas fait gaffe qu'il mettait aussi la marque de la chaussure. C'est une chaussure qui est fabriquée au Vietnam. Donc voilà, comment cet homme-là ment en permanence. Et puis, il n'y a pas un média qui va dire, tiens, c'est un menteur. Donc, il invente. Voilà. Et il alimente comme ça. Je pense que c'est lui qui a aussi alimenté le dernier bobard sur les 500 000 Ouïghours esclaves dans les champs de coton.
Passons peut-être justement au cas des travailleurs déplacés de force ou prétendus tels. Il y a énormément de migrations liées au travail, hein, c'est considérable, à tel point que quand il y a le nouvel an lunaire, les déplacements de population engendrés pour que les personnes retournent dans leur famille, c'est l'équivalent du Noël hein, chez eux, c'est le plus gros mouvement de population annuel qui existe sur Terre, qui est rendu possible aussi, petite incise, par le développement extraordinaire, notamment c'est devenu le pays du rail, hein, la Chine, avec des dizaines de milliers de kilomètres de rails et de rails de haute technologie, vu que vous avez par exemple le train magnétique à gravitation magnétique à Shanghai ou des trains à grande vitesse mais qui sont en capacité de circuler par des conditions climatiques extrêmes de vent, de neige, etc., ce qui n'est pas forcément le cas de notre TGV national qui ne pourrait pas fonctionner dans certaines des conditions dans lesquelles fonctionnent les nouvelles lignes chinoises. Voilà, donc qu'en est-il en fait de ces travailleurs déplacés?
Oui, juste sur les lignes à grande vitesse dont vous parliez, je reviens à travailleurs forcés. Moi, dans mon livre, je crois que je dis qu'il y avait il y a maintenant 20 000 kilomètres de lignes de TGV en Chine, c'est-à-dire autant que dans le reste du monde. Mais j'ai entendu récemment qu'ils en sont maintenant à 29 000 et que bientôt ils en sont à 31 000. Enfin, voilà, ça va à une vitesse folle et en plus ils ont mis au point un TGV qui va être bientôt opérationnel qui va se déplacer à 900 km à l'heure. Donc en fait là-dessus ils sont effectivement ils avancent à des vitesses vertigineuses vers toute la Chine, avancent à une vitesse vertigineuse. Il faudrait qu'on se rende compte un jour pour essayer de voir si on ne pourrait pas avoir avec eux des rapports plus amicaux et de coopération. Alors sur les camps sur les champs de coton et sur le 500 000 esclaves dans les champs de coton. D'abord, je vous fais remarquer que je suis étonné d'ailleurs qu'aucun journaliste ne pose la question. S'il y a 500 000 esclaves dans les champs de coton, combien faut-il de policiers et de soldats pour les garder? Oui. C'est l'affaire quand même des millions. Et pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi on ne voit pas un petit peu, c'est à la fois ces esclaves et ces militaires qui les gardent autour, parce qu'il faut quand même du monde pour garder les esclaves. Ça, on ne le voit pas. Alors ça, c'est encore une invention d'Adrian Zen, et qui est basée sur quoi? Mais sur le fait qu'il se passe au Xinjiang, ce qui se passe partout dans le monde. C'est-à-dire que quand la récolte arrive, il faut du monde, il faut des déplacements de population. Moi, je suis dans une région là où il y a des vendanges, là, hein, et puis au moment des vendanges, puis, traditionnellement, depuis des décennies, il y a des Espagnols, des Portugais, des Marocains aussi qui arrivent en France comme ça, par milliers, pour faire les vendanges. Et puis, quelquefois, ils ne sont pas traités trop bien. Hein. Ils dorment dans des tentes, des choses comme ça. Puis aussi, plus près de chez vous, en Italie aussi, les Italiens sont arrivés dans le midi pour participer au vendage au moment où il faut le faire. C'est ce qui se passe là-bas. Et c'est une nouvelle pour les Ouïghours qui, je vous le disais, c'est une région qui n'est pas très encore développée. Et donc, ça fait effectivement une occasion d'aller gagner de l'argent. Mais ce que Adrian Zenz dit, c'est qu'en fait, le travail est forcé et que les gens n'ont pas le choix. Parce qu'en fait, dans l'idéologie politique occidentale, les Chinois sont intrinsèquement mauvais et pervers. C'est pas pour eux, ils sont méchants. C'est parce qu'ils sont méchants qu'ils font tous ces malheurs aux Ouïghours. D'ailleurs, ils sont tellement méchants qu'ils prélèvent des organes sur des enfants parce que ses enfants sont Ouïghours, et les enfants, ils en meurent, ils violent les femmes, ils ont, ben voilà, ils provoquent des stérilisations, ils obligent les femmes à se déshabiller en public, et tout ce que moi j'ai lu et que je raconte dans mon livre, j'en ai une page et demie comme ça d'accusations contre la Chine, et s'ils font ça, ce qui ne correspond à aucun impératif politique, c'est même contre-productif politiquement, s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont intrinsèquement méchants, et la preuve, c'est que d'abord, ils ont les yeux bridés et qu'ils sont un peu jaunes. Voilà, c'est comme ça, il y a une sorte de racisme latent qui existe et qui fait que les gens prennent pour argent comptant ce qu'on peut raconter sur les Chinois. Il faudrait se méfier parce que c'est quand même un pays qui a une civilisation plurimillénaire, avec un rare raffinement aussi. Il faudra qu'un jour on se réveille quand même.
Clairement, il va falloir réformer.
On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs.
C'est pas assez violent, tout simplement. Alors c'est la société française.
Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler, qu'en est-il ?
Est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler ?
Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité des Gilets jaunes sans se voir taxé comme ça de mépris classe.
Le monde est en train de changer, alors serez-vous capable de vous adapter ?
Qui souffre le plus de la grève et des blocages ? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte.
Quand on regarde la réforme des retraites, c'est une réforme de gauche.
Oui, parce que les RTT, les 35 heures à l'hôpital, ont désorganisé l'hôpital public.
Il y a eu de la torture, il y a eu tout ce que vous voulez, je ne le nie pas. On n'a rien fait de mal.
On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
L'heure de le mettre, mercredi à 18h30 sur Radio Campus 106,6.
Pour en finir avec. Je vais répondre à vos questions, mais juste pour finir, parce qu'il y a un point important qu'on n'a pas assez peut-être abordé, c'est le problème du génocide. Parce qu'en fait, c'est ce que Libération fait une première quand même avec génocide en cours. Et le mot génocide circule beaucoup. En fait, on est en train d'exterminer. D'ailleurs, c'est ce que dit Raphaël Guzman, hein, on est en train d'exterminer la population ouïghour. Alors, je voudrais juste dire qu'en fait, la population ouïghour, elle augmente de façon exponentielle. Et elle continue à augmenter actuellement plus vite que la population du reste de la Chine. Alors, on se demande bien pourquoi en fait on les laisserait augmenter comme ça. Je rappelle que les minorités en Chine, et y compris dans la minorité ouïghour, n'ont jamais été soumises à la politique de l'enfant unique. Les Ouïghours pouvaient avoir un, deux, trois enfants. D'ailleurs, je l'ai vu dans des familles. Ce qui n'est pas le cas pour les rangs, qui eux devaient en avoir un seul. Et jusqu'en 2016, la politique de l'enfant unique a été abolie, dont les rangs, la majorité de 90% de la population, n'est plus soumise à cette politique-là, et les familles pouvaient avoir non plus seulement un, mais deux ou trois enfants. Et à ce moment-là, en 2016, on a eu une baisse de l'installation des stérilés dans toute la Chine, sauf dans les régions où en fait les gens n'emportaient pas déjà, parce qu'on pouvait avoir d'autres enfants. Et donc, la propagande anti-chinoise dit, mais voyez, vous avez vu, les stérilés sont en baisse partout, sauf en Xinjiang, c'est bien la preuve qu'il y a un génocide. Même si en fait la population ouïghour en 40 ans est passée de 5,5 millions, je crois, à 12,7 millions. Voilà, en fait, il y a de plus en plus de Ouïghours. Et moi, je donne rendez-vous à ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être du mal à nous croire, tellement on prend ici le contre-pied de ce qui est dit. Je leur donne rendez-vous dans quelques années pour savoir combien il y a encore de Ouïghours. Voilà.
Alors, c'est tout de même assez étonnant, toutes ces fake news et le fait qu'elles soient répercutées aussi facilement dans la presse, voire fabriquées. Pourtant, vous démarrez justement votre ouvrage sur justement l'éthique de journaliste, sur notamment la charte de Munich. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, en fait, il y a pour la fonction de journaliste, pour le métier de journaliste, une charte qui s'appelle la charte de Munich, parce qu'elle a été signée à Munich. Alors, la charte, on peut l'appeler aussi la charte des journalistes, qui est aux journalistes ce qu'est le serment d'Hippocrate au médecin. Le serment d'Hippocrate, il dit d'abord ne pas nuire. Hein. Les médecins sont là pour soigner le malade et non pas pour s'enrichir ou pour se mettre en compétition. Donc il y a un peu l'équivalent un petit peu de cette charte de Munich que j'ai mise au début du livre, parce qu'en fait les journalistes ne la respectent pas, ne la respectent pratiquement jamais, et moi je me fais fort de la respecter toujours. Et cette charte, donc moi j'ai discuté il y a quelques mois avec deux journalistes dont l'un venait d'avoir son diplôme et il n'avait pas entendu parler de cette charte, et puis l'autre qui était en troisième année d'école de journalisme qui n'avait pas entendu parler encore non plus. Bon, il y a comme une volonté des enseignants de l'école de journalisme de ne pas obliger leurs élèves ou les futurs journalistes à se tenir à cette charte-là, et qui édicte des prescriptions quand même qui sont un peu contraignantes du point de vue de l'éthique. Par exemple, on n'a pas le droit de publier des informations sans les avoir vérifiées. Or, sur ce qui se passe dans la querelle avec le Xinjiang, toutes les informations qui sont prises et qu'on va chercher chez Adrian Zenz ou d'autres d'ailleurs, eh bien, elles ne sont pas vérifiées. On les prend, on les répète, hein, c'est ce que fait...
Parce que vérifier une information,
vérifier une information, c'est pas aller chercher si quelqu'un d'autre l'a dite. Ça, c'était ce qu'appelait Bourdieu la circulation circulaire de l'information, où au final, tout le monde, l'autre l'a dit, donc je peux le dire aussi. Alors que peut-être que vérifier, c'est aller de retourner aux faits, aux factuels, et c'est ça qui n'est pas fait.
Oui, parce que là, avec cette affaire-là, cette campagne mondiale sur les Ouïghours, on a, oui, vous en parlez à juste titre, on a cette fameuse théorie là, de si bien vu, de Pierre Bourdieu sur la circulation circulaire de l'information, et alors, en fait, effectivement, moi, j'ai déterminé le point de départ. C'est une américaine qui devant l'ONU, a dit qu'il y avait des rapports nombreux et crédibles qui disaient qu'il y avait un million de Ouïghours dans des camps de concentration. Elle n'a pas pu citer ces rapports, elle n'a pas pu les montrer, mais enfin, elle a dit qu'ils étaient nombreux et crédibles. Et puis, c'est l'agence Reuters, qui est une des plus grandes agences du monde, une des quatre plus grandes, qui a repris l'information sous le titre l'ONU. Dénonce le fait qu'il y ait un million de Ouïghours dans les camps de concentration. Ça s'est fait comme ça. Et après, les autres journaux qui ne veulent pas rester comme ça à l'écart se mettent aussi à reprendre l'information. Quelquefois, on la rajoute un petit peu. Ça tourne en boucle. Au bout d'un moment, les hommes politiques qui lisent la presse parlent là-dessus. Les journalistes parlent là-dessus en se valisant de ce qu'ont dit les hommes politiques, etc. Et donc c'est une sorte de boule de neige qui dévale comme ça, en grossissant toujours plus, mais jamais personne ne va vérifier ce qui a été dit.
Et il y a dans cette charte pas mal de choses. Hein, rectifier une info si on s'aperçoit qu'elle a été inexacte. S'interdire la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement. Si on publie un témoignage, il faut publier le degré de fiabilité de ce témoignage. Pas présenter comme une vérité absolue quelque chose qui est en fait une simple... On va peut-être évoquer cette question de la valeur, la validité d'un témoignage. Pas utiliser de méthode déloyale. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour obtenir des informations, des photographies, des documents, par des pressions, de l'argent, par des choses comme ça. Bon, je passe un petit peu tout ça, mais je vous invite effectivement à voir cette charte. On va voir que malheureusement, elle n'est peut-être pas respectée dans ces cas-là.
En fait, elle l'est jamais. Et notamment, moi, ce qui me désole beaucoup, c'est que en fait, les informations qui sont fausses ne sont jamais rectifiées. Voilà. Elles ne sont pas rectifiées, c'est qu'on a un truc, c'est une règle. Hein, en fait, les journaux peuvent mentir pendant des mois ou des années. Après, au bout d'un moment, la vérité éclate et puis ils vont pas rectifier, ou alors ils vont faire apporter la responsabilité du mensonge sur les médias. Voilà, c'est pas sur eux, hein, c'est sur les médias. Moi, je prends l'exemple du procès de Boutros dans le Nord, qui a duré 3 ans, hein, un procès contre un réseau de pédophilie. Il y a des accusés qui se sont... Il y en a un qui s'est suicidé, il y en a un qui est mort en prison, des effets cardiaques, il y en a un qui a divorcé, d'autres qui ont eu leur vie brisée, qui ont été ruinés, et tout ça, ça a duré 3 ans. L'ensemble de la presse s'est déchaîné là-dessus. Libération nous racontait l'histoire du viol d'une fillette avec beaucoup de réalisme. La fillette est tenue par un homme aux cheveux gris qui la battait pendant qu'un autre l'a violée. Le Monde racontait que cette fille-là, elle était morte. Tout était faux. Le réseau de pédophilie n'avait pas existé, la scène de cette fillette n'avait pas existé, et puis il n'y a pas eu d'enfant qui a disparu et qui est mort pendant cette période-là. Ça a duré 3 ans, mais l'ensemble des médias, là, pendant 3 ans, on fait des unes ou on fait des colonnes entières là-dessus, et quand, en fait, l'affaire la vérité éclate, bon, la France, par la voix de Jacques Chirac, présente ses excuses, les survivants sont indemnisés. Mais les médias ne font pas l'armée à coup pas. Ce qu'ils vont faire, c'est dire oui, les médias se sont, voilà, ils vont voir dans les journaux, les médias se sont peut-être emballés. Les médias, d'accord, mais toi aussi, camarade. Voilà. Ils n'en verraient jamais comme ça se mettre à coup pas. Et c'est pour ça que moi, je suis très pessimiste sur le temps qu'il faudra pour que la vérité éclate sur le Xinjiang, parce qu'ils ont tellement menti tous ensemble qu'ils ne pourront pas reconnaître qu'ils ont menti. Voilà.
Et oui, qui plus est, aujourd'hui encore, beaucoup de gens ne sont pas au courant que l'affaire d'Outreau était un faux, alors qu'il y a eu tellement dans leur mémoire ce qui a été, même s'ils ont entendu l'info que c'était, ça a été tellement répété, tellement machin, qu'ils pensent encore que c'était vrai, ou alors que voilà, y a, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu quand même, hein. Qu'il doit y avoir quelque chose, et en fait, pas forcément, c'est ça qui devient assez terrible. Alors on en a pas mal quand même des exemples de ce type. Alors vous citez bien sûr le plus célèbre, le plus emblématique, mais il faudrait pas qu'il ait l'air, comment dire, comme une exception, parce que le problème, c'est que c'est pas des exceptions, ces choses-là, c'est c'est des choses qu'on a pris. Mais vous prenez l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui certes va focaliser l'attention, mais ça n'est pas du tout la seule fausse information de cette époque-là. Il y en a beaucoup déjà qui circulent. Et voilà, là on va en citer quelques-unes, mais ces quelques-unes, elles sont les plus emblématiques, mais ne sont pas malheureusement les seules. Alors peut-être les plus connues, si on peut les rappeler. Il peut y avoir une campagne médiatique où tout le monde a l'air de dire la même chose sur un truc où finalement, eh ben en fait...
Écoutez, dans mon livre, on va en citer quelques-unes, on aurait pu en citer beaucoup d'autres, mais j'en cite quelques-unes pour montrer comment ils ont menti sur des choses dont on sait maintenant qu'elles étaient fausses, et par conséquent, s'ils ont fait ça, pourquoi ne le feraient-ils pas aussi sur le Xinjiang où ils n'ont pas mis les pieds? Il y a un exemple que tout le monde connaît, qui est facile à dire un peu de mots, c'est la fameuse fiole d'armes de destruction massive brandie par Colin Powell à l'ONU, dans laquelle il expliquait qu'il y avait un échantillon de ce que Saddam Hussein avait pour attaquer le monde. On disait qu'avec ça, il pouvait atteindre la France et l'Angleterre, etc. Et puis après, on s'est aperçu que tout ça a été faux et que Saddam Hussein n'avait jamais eu d'armes de destruction massive. Ça a été une chose à prouver. Mais on l'a su après l'invasion de l'Irak et après que ce pays a été détruit avec des centaines de milliers de morts. Donc ça a été une feuille d'horrible, un mensonge qui a été comme ça, qui a été très très coûteux en vie humaine et puis aussi pour un pays qui maintenant est ruiné.
Mais d'autant que là, c'est un exemple qui n'est pas inintéressant à double titre. Tout d'abord parce que le père de Raphaël Glucksmann a lui soutenu cette campagne pour dire qu'il y avait des armes de destruction massive et qu'il fallait intervenir en Irak. Donc c'est toujours cette propagande humanitaire en fait qui est en fait anti-humanitaire. Et ça permet de rebondir sur le fait que si il y a un moment, il y a bien des musulmans qui sont tués dans le monde, c'est confirmé par des études américaines qui expliquent qu'aujourd'hui on en est à au moins 800 000 victimes directes de la guerre contre le terrorisme dans les pays incriminés. Quand je dis 800 000, c'est pas 800 000 victimes, c'est 800 000 tués par l'intervention militaire américaine.
Oui.
Voilà. Et dans ces 800 000, la proportion de civils est ahurissante. C'est-à-dire que c'est plus de la moitié dont on sait que c'était des civils. Donc des personnes qui n'étaient pas liées directement au conflit. Donc voilà, là, je veux dire, si on veut en chercher, si on veut faire des campagnes humanitaires, il y a le Yémen, il y a la Palestine, il y a plein d'endroits où on peut intervenir. Et voilà, on a des faits.
Oui, moi, je cite dans mon livre un scandale qui est avéré, qui est prouvé, qui est filmé, que n'importe qui peut aller vérifier. C'est le scandale des 10 millions d'enfants esclaves en Inde. Mm-hmm. Il y a 10 millions d'enfants esclaves en Inde. Il y a un reportage de France 24. Donc, je donne le lien pour que vous puissiez aller le voir. Et où on voit des gens, des citoyens appuyés par la police et qui vont délivrer dans des ateliers sans fenêtre des enfants qui travaillent là toute la journée, qui tombent au pied de l'atelier. Il y en a 10 millions comme ça. Donc, on a des éléments qui montrent que c'est vrai. Enfin, je sais pas, on peut discuter sur le chiffre. Hein. En fait, il y a des éléments qui montrent que c'est vrai parce que ça a été filmé et qu'on le voit. Voilà. Et donc, là, il y a 10 millions d'enfants esclaves en Inde, je suis étonné que personne ne bouge. Je suis étonné qu'on n'organise pas des grandes manifestations au Trocadéro. Je suis étonné qu'il n'y ait pas des débats à la télévision. Je suis étonné que nos grandes consciences, là, Glucksmann, Goupil, Cohn-Bendit, n'interviennent pas pour mener des campagnes, enfin, condamner l'Inde par des motions à l'ONU. Il y a eu une motion votée par l'Union européenne pour condamner la Chine, notamment. Mais pourquoi il n'y en a pas aussi sur l'Inde? Parce qu'en fait, la réponse, c'est que l'Inde n'est pas un pays ennemi des États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors que la Chine est un pays concurrent, certainement le principal concurrent des États-Unis, et certainement d'ailleurs le pays qui maintenant a supplanté les États-Unis. La question, est, voilà, la réponse est là, et c'est quand même, on voit bien comment on se fait manipuler, hein, parce qu'en fait, on va nous dire sur quel sujet il faut s'apitoyer, sur quel sujet il faut les manifester, et puis il y a des choses qui se passent beaucoup plus graves. Moi, si on parlait de liberté aux Xinjiang, allons voir quelle est la liberté de la moitié de la population en Arabie Saoudite, la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, n'ont aucun droit. Elles n'ont pas le droit de sortir à visage découvert, elles n'ont pas le droit de sortir, même si elles sont avec un tchador, si elles ne sont pas accompagnées par leur mari, leur cousin, leur frère, quelquefois leur fils. Il n'y a aucune liberté pour ces femmes-là, elles sont engagées dans des habits. Et c'est étonnant quand il n'y a pas de campagne comme ça pour faire libérer les femmes, c'est quand même 50% de la population. Je dis l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, les autres pays aussi, les autres Émirats. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, on nous demande de courir derrière l'heure, hein, on nous lance une babale, il faut courir derrière, et puis même si en fait il n'y a rien, mais sur les choses qui sont vraies, eh bien, on passe, on n'en parlera pas. Voilà. La question ne sera pas posée, comme on dit, dans les tribunaux.
Quels sont de quoi est-ce qu'il faut qu'on se méfie quand on a ce genre d'infos pour ne pas juste faire le jeu d'une propagande de guerre?
D'abord, il faut bien voir que cette campagne-là, qui est une campagne mondiale, c'est certainement la plus grande campagne que j'ai vue de ma vie. Je n'ai pas souvenir qu'il y en ait une aussi grande. Même sur le Tibet, c'était pas aussi violent, c'était pas aussi unanime, c'était pas aussi serré, c'était pas aussi fort. Moi, c'est une campagne qui est basée sur l'émotionnel. Hein. C'est un classique, c'est un grand classique. Hein. Ne parlez pas à l'intelligence des gens, parlez à l'émotion. Ça marche très bien, c'est le principe d'ailleurs des journaux télévisés. On parle donc on parle à l'émotionnel. Et si on essaie de rationaliser un petit peu, on fait ce que je vous dis, on essaie de chercher les preuves. Et puis si on voit qu'il y a des mensonges, ce qui est facile à voir d'ailleurs, hein, n'importe qui peut le voir, et bien si on voit qu'il y a des mensonges, on se demande pourquoi il y a tant de mensonges pour défendre une cause qui est juste. Quand une cause est juste, elle se défend avec des arguments vrais. C'est ce que je fais, moi, c'est mon site de grand soir. Les arguments qu'on emploie sont des arguments vrais. C'est la raison pour laquelle tous les articles publiés depuis 2008 sont encore consultables en archives libres, parce qu'en fait, on dit la vérité. Donc là, on a une cause qui est défendue par une accumulation de mensonges. Moi, je voudrais quand même dire un mot sur la CIA, on ne l'a pas encore dit. Hein. Tout au départ était lancé et financé par la CIA. Je donne dans mon livre des organisations qui financent directement des organisations ouïghours. Et parmi les gens qui ont dirigé la CIA, il y en a un qu'on connaît, parce qu'on en parle ces temps-ci, en fait, c'était un ministre de Trump, c'est Mike Pompeo. Pompeo a été directeur de la CIA pendant 2 ans, 2007-2018, je crois, de tête, là, 2016-2017. Donc voilà, c'est dans mon livre. Et il fait une conférence devant les étudiants dans une université du Texas. Il dit textuellement ceci, quand j'étais directeur de la CIA, nous avons menti, nous avons trompé, nous avons volé, et il ajoute, c'est comme si on avait été formé entièrement pour ça. Voilà ce qu'est la CIA, et c'est la CIA qui alimente cette campagne-là. Donc à partir de là, on peut continuer comme ça. Donc vous me demandiez comment faire pour essayer de voir comment on est manipulé, mais d'une part, voir qui a lancé l'affaire, pourquoi, quel est leur intérêt, et puis voir s'ils mentent. S'ils mentent souvent, en fait, c'est parce qu'en fait, la vérité n'est pas chez eux. Mais tout à l'heure, je crois qu'on a abordé les exemples de documents qu'ils produisent. Là, notamment, il y a des poteaux. Les poteaux, donc, vous disiez, en fait, la légende est fausse. Hein. Il y a des poteaux, et puis on donne une légende qui est fausse, et avec ça, on essaie d'émouvoir les gens. Alors, il se trouve que depuis quelques années, il y a une application informatique qui s'appelle InVID, INVID, qui permet, à partir d'une photo, de remonter à la source de cette photo. Alors, je vous donne un exemple, il y en a plusieurs dans mon livre, je vous en donne un qui est assez frappant. On voit une Ouïghour avec les visages ensanglantés, qui est attachée sur une chaise, elle a une main attachée sur un tabouret, et il y a un tortionnaire Han qui lui arrache les ongles. C'est terrible, cette photo, en fait, a circulé partout. Or, avec InVID, on apprend que cette photo a été tournée en 2004, c'était une vidéo, en fait, dans un studio aux États-Unis, avec une actrice. Voilà. Alors, ensuite, il y en a une autre aussi qui est assez pathétique, quand on parle à l'émotionnel. Hein. On voit un enfant de 2 ans, peut-être même pas 1 ou 2 ans, nu, à 4 pattes, qui mange dans la gamelle du chien ou du chat, et il est tenu en laisse. C'est un enfant ouïghour tenu en laisse par des rangs. Alors, en fait, on apprend que c'est une photo qui a été prise aux Philippines par la mère de cet enfant, une mère indigne. Hein. Voilà. Et donc, c'est à peu près tout comme ça. Et puis après, en général, les témoins qu'on peut voir qui apparaissent à la télé, tels qu'on les voit chez nous, hein, en général, ces témoins-là se débrouillent toujours pour rester dans le flou. Ils ont été dans des camps, mais on ne sait pas quel mois, quel année, on ne sait pas où est le camp, on ne sait pas comment s'appelait leur fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de vérifier. Il y a un autre propagandiste anti-chinois qui est américain qui s'appelle Houghton Woodman, qui travaille pour la NED, la National Endowment for Democracy, qui est auparavant de la CIA. Lui, il dit il y a 25 000 Ouïghours entre 25 et 35 ans qui sont tués chaque année pour prélèvement d'organes. C'est précis, hein. 25 000 entre 25 et 35 ans. Et il est allé compter.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, ces informations-là sont démenties. Mais on continue à croire les personnes qui vont ressortir à nouveau une nouvelle, soi-disant, un nouveau scoop. Ouais. Mais voilà, donc excusez-moi d'avoir coupé.
Mais en fait, comment un journaliste peut prendre cette information et la diffuser sans faire son travail de journaliste qui dit, mais comment il sait qu'il y en a 25 000 hein, et pas 28 et pas 27, il les a comptés. Comment il sait qu'ils avaient entre 25 et 35 ans? Et comment se fait-il qu'il nous dit qu'il ne peut pas le prouver parce que les camps sont tenus secrets et puis les cadavres sont brûlés? Alors on ne peut pas. Voilà. Ce genre d'accusation devant un tribunal français, d'abord le plaignant serait débouté et peut-être même qu'il serait condamné pour outrage en magistrat. Mais c'est ce qui circule comme ça pour montrer la monstruosité des Chinois.
Voilà, alors sur cette question des témoignages, ce que peut-être il y a une expérience assez intéressante qui avait été réalisée par le youtubeur AstronoGeek qui avait fait ça à base, sur la base de Crop Circle. Donc ils étaient allés fabriquer un Crop Circle et ils étaient retournés les jours qui suivaient pour interviewer les gens qui étaient sur place, qui venaient se présenter en leur demandant, alors que c'était eux qui venaient de faire ces Crop Circle, hein, mais ils demandaient aux gens qui étaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé, comme s'ils n'étaient pas au courant. Et les témoignages des gens qui affirmaient tout un tas de choses, alors que l'énergie qui se dégageait, que les extraterrestres étaient venus, etc. Et des témoignages où, si vous mettiez votre raison de côté un instant, les gens avaient l'air d'une sincérité absolue. Et vous auriez presque pu y croire. Bien sûr, c'était complètement faux. Mais les témoignages avaient l'air tellement sincères, quoi. De même, aujourd'hui, vous faites le tour des lycées de France, vous allez trouver 10, 15, 20 élèves qui vont vous dire, en pleurant, à quel point leur lycée, ou ce qu'ils vivent au lycée, c'est une expérience concentrationnaire, qu'on leur refile une propagande de fou, etc. etc. Voilà. Alors, je recite quand même un ouvrage qui est très très riche, le petit ouvrage de Maxime Vivas, très facile à lire. Maxime Vivas, donc Ouïghour. Pour en finir avec les fake news aux éditions La Route de la Soie, Maxime va avoir un petit mot encore, pour encore ajouter un petit mot à tout ça. Vous avez également des articles, hein, de Maxime. Je peux aussi vous recommander des chaînes YouTube comme celle du Canadien Numuves ou de l'Américain Nathan Rich. Alors, ces deux dernières sont en anglais, mais vous y trouverez pas mal de choses sur le Xinjiang, etc. Et puis, je vous invite aussi à regarder, je ne vous invite pas à y croire, etc. À ajouter, si vous vous intéressez à ces questions, allez regarder aussi ce que disent les chaînes comme CGTN, China Daily, qui sont des chaînes officielles. Voilà, et vous verrez que vous aurez des éléments aussi pas inintéressants sur ces questions-là, sur la vie, sur le développement de ces régions, qui permettent d'avoir un point de vue un peu plus complet. En tout cas, évitez de céder à la haine, à l'émotion, à vouloir changer les gouvernements des autres pays, c'est peut-être pas notre rôle, etc. Et particulièrement quand on est mobilisé là-dedans par des intérêts qui sont absolument pas ceux de notre pays. Voilà, alors Maxime, peut-être un dernier mot ?
Oui, non, je voudrais d'abord vous remercier, et puis simplement préciser que, parce que là on l'a juste abordé en passant, mais dans mon livre je développe bien, quand c'est l'origine, c'est quand même c'est les États-Unis, hein. Il y a ce départ de la route de la soie qui va impacter 143 pays dans le monde, et parmi ces 143 pays, il n'y a pas les États-Unis, hein. Donc il y a une sorte de commerce mondial qui est en train de se mettre en place avec cette nouvelle route de la soie. La route de la soie part du Xinjiang, et comme par hasard, il faut qu'il y ait une offensive géante et énorme comme ça, avec tous les arguments les pires, c'est-à-dire génocide, c'est quand même un mot qui est un peu fort, mais à force de le répéter, ça devient vrai. Mais il n'empêche que l'origine, c'est pas ce qui se passe, c'est pas le sort malheureux des Ouïghours, leur sort s'améliore. C'est plutôt l'avenir des États-Unis qui sont une bête blessée et qui voient que bientôt ils ne pourront plus gouverner le monde à leur guise pour aller faire des guerres. Ils font en guerre chaque année, en général d'ailleurs, dans un pays lointain et qui ne peut pas se défendre. Voilà. Donc c'est ça la véritable raison de cette campagne sur le Xinjiang et sur les Ouïghours, elle est là, il ne faut pas se laisser avoir.
Ces morpions, ces hommes politiques qui jouent au scorpion, qui volent à notre fric, je me pose des questions. Est-ce bien démocratique toute cette corruption? Non, 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 non. Quand je vois ces sangsues, ces hommes politiques nous marcher dessus, nous voler notre fric, puis jouer au déçu, quand la grande justice leur tombe dessus. Non, 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 non. Quand je vois tous ces poux, ces hommes politiques qui sont tous ribous, je trouve ça pathétique, ils nous prennent nos sous, nous voilà notre fric, nous mettent à genoux. Ces hommes politiques usés de combines pour taper notre fric par les fiscaux, ils effacent les traces des milliards d'euros. qu'il les retarde à masse, cette bande de blaireaux qui paiera coûte que coûte ses foutus impôts. Quand je vois ces morpacs, ces hommes politiques pris la main dans le sac, venir parler d'éthique, je me dis patatrac, où c'est que j'ai mis ma trique, les coups de matraque, la 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 la. Quand je vois ces cafards, ces hommes politiques jouer au chauffard, tout ça sur notre fric, je me dis que cet tocard mériterait le front kick, qu'il n'est pas trop tard.